La nuit passa. Dans la lueur chancelante des étoiles, ni Nam, ni Gao, ni le chef ne virent de silhouette humaine. Quand le matin se répandit comme une vapeur d'argent, la lande montra sa face morne, suivie d'une eau sans limite, entrecoupée d'îles boueuses. S'il s'éloignait des rives, il retrouverait sans doute les nains rouges. Il fallait suivre les confins de la lande et du marécage à la recherche d'une issue. Et comme rien n'indiquait la direction préférable, ils prirent celle qui semblait le moins se prêter aux embûches. D'abord, cette route se montra bonne. Le sol, assez résistant, à peine coupé de quelques flaques, produisait des plantes courtes. Vers le milieu du jour, les buissons et les arbustes se multiplièrent. Il fallut continuellement guetter l'horizon rétréci. Toutefois, Nao ne croyait pas que les nains rouges fussent proches. S'ils n'avaient pas abandonné la poursuite, s'ils suivaient la trace des oulams, leur retard devait être considérable. La provision de chair était épuisée. Les nomades se rapprochèrent du rivage où foisonnait la proie. Gao captura une petite brème à l'embouchure d'un ruisseau. Nao perça de son harpon un râle d'eau, puis Nam pêcha plusieurs anguilles. Ils allumèrent un feu d'herbes sèches et de rameaux, joyeux de flairer l'odeur des chairs rôties. La vie fut bonne, la force remplit leur jeunesse. Ils croyaient avoir lassé les nains rouges et ils achevaient de ronger les eaux du râle lorsque des bêtes jaillirent des buissons. Nao reconnut qu'elle fuyait un ennemi considérable. Il se leva. Il eut le temps de voir une forme furtive dans un interstice des végétaux. « Les nains rouges sont revenus, » dit-il. Le péril était plus redoutable que naguère, car les nains rouges pouvaient suivre les oulams à couvert, leur couper la route par des embuscades. Une bande de territoire s'allongeait, favorable à la fuite, entre le marécage et la brousse. Les oulams se hâtèrent de charger les cages, les armes et ce qu'il leur restait de chair. Si l'ennemi les suivait par les buissons, ils devaient perdre du terrain, étant ensemble moins lestes et entravés par les végétaux. La lande aride s'élargit d'abord, puis elle commença à se rétrécir parmi des arbres, des arbustes ou des herbes hautes. Pourtant le sol demeurait solide et Nao était sûr d'avoir distancé les nains rouges. Tant qu'aucun obstacle ne se présenterait, il garderait l'avantage. Les obstacles vinrent. Les fugitifs voyaient leur route obstruée sans relâche. Ils devaient tourner, biaiser et même revenir sur leurs pas. À la fin, ils se trouvèrent resserrés sur une bande granitique que limitait à droite l'eau immense, à gauche des terrains inondés par les crues d'automne. L'ossature granitique s'abaissa et disparut. Les oulams se trouvaient cernés sur trois faces. Il leur fallait ou rebrousser chemin, ou attendre les coups du hasard. Ce fut un moment formidable. Si les nains rouges étaient à l'entrée de la bande, toute retraite devenait impossible. Et Nao, le front bas devant le monde hostile, regretta amèrement d'avoir quitté les mammouths. Son énergie fléchit. Il connut le découragement et la détresse. Puis l'action revint, avec son urgence et sa rudesse. Le regret passa comme un battement de cœur. Il n'y eut que l'heure présente. Elle exigeait la tension de tout l'être et l'éveil continu des sens. Les nomades essayèrent rapidement les issues. Au loin, une masse rousse s'élevait, qui pouvait être une île, qui pouvait aussi être la reprise de l'arête. Gao et Nao recherchèrent un guet. Ils ne trouvèrent que l'eau profonde. Alors, la dernière chance était dans le retour. Ils le décidèrent brusquement et l'exécutèrent en hâte. Ils parcoururent 2000 coudées et se retrouvèrent hors du marécage, devant une végétation touffue, à peine entrecoupée d'îlots et d'herbes rases. Nam, qui précédait, s'arrêta net et dit « Les nains rouges sont là !» Nao n'en doutait point. Pour mieux s'en assurer, il ramassa des pierres et les lança rapidement dans le fourré que Nam désignait. Une fuite légère mais certaine décela les ennemis. La retraite devenait impossible. Il fallait se préparer au combat. Or, l'endroit où se trouvaient les oulams ne leur offrait point d'avantage et permettrait aux nains rouges de les envelopper. Mieux valait s'établir sur une partie de l'arête. Avec la lueur du feu, ils y seraient à l'abri des surprises. Nao, Nam et Gao poussèrent leurs cris de guerre. Et tandis qu'ils brandissaient leurs armes, Nao clamait « Les nains rouges ont tort de poursuivre les oulams, qui sont forts comme l'ours et agiles comme le saïga. Si les nains rouges les attaquent, ils mourront en grand nombre. Nao seul en abattra 10. Nam et Gao en tueront aussi. Les nains rouges veulent-ils faire mourir 15 de leurs guerriers pour détruire 3 oulams ?» De toutes parts, des voix s'élevèrent dans les buissons et parmi les hautes herbes. Le fils du léopard comprit que les nains rouges voulaient la guerre et la mort. Il ne s'en étonnait pas. De tout temps, les Ulam n'avaient-ils pas tué les hommes étrangers qu'ils surprenaient près de la horde? Le vieux Goun disait « Il vaut mieux laisser la vie au loup et au léopard qu'à l'homme, car l'homme que tu n'as pas tué aujourd'hui, il viendra plus tard avec d'autres hommes pour te mettre à mort. » Nao ne reviendrait pas mettre à mort les nains rouges s'il lui laissait la route libre, mais il comprenait bien qu'il devait le craindre. D'ailleurs, il savait aussi que les hommes de deux hordes se haïssent naturellement, plus que le rhinocéros ne hait le mammouth. Sa grande poitrine s'emplissait de colère. Il provoqua les ennemis, il s'avança vers les buissons en grondant. De minces sagas sifflèrent, dont aucune ne vint jusqu'à lui, et il poussa un rire farouche. Les bras des nains rouges sont faibles, ce sont des bras d'enfants. À chaque coup, Nao en abattra un de sa massue ou de sa hache. Une tête s'aperçut parmi des vignes sauvages. Elle se confondait avec la teinte des feuilles rougies par l'automne. Mais Nao avait vu briller les yeux. Une fois encore, il voulut montrer sa force sans employer la sagaie. La pierre qu'il lança fit frémir le feuillage. Un cri aigu s'éleva. Voilà, c'est la force de Nao. Avec la sagaie aiguë, il aurait terrassé le nain rouge. Alors seulement il battit en retraite, au milieu des glapissements de l'ennemi. Il préféra aller jusqu'au bout de l'arête. Il y avait place pour plusieurs hommes, et les nains rouges devraient attaquer sur une ligne étroite. Du côté de l'eau, à cause des plantes perfides, aucun radeau ne pourrait se faire jour. Aucun homme n'oserait se risquer à la nage. On ne pouvait davantage atteindre un îlot escarpé, qui se dressait à 60 coudées de la levée granitique. Ayant accumulé des roseaux flétris pour le feu du soir, les Ulam n'eurent plus qu'à attendre. De toutes leurs attentes, ce fut la plus terrible. Lorsqu'ils guettaient l'ours gris, ils espéraient, par quelques coups bien portés, anéantir la bête. Jamais ils n'avaient été cernés par des dévoreurs d'hommes. À présent, la horde qui les assiège a la ruse et le nombre. Il est impossible de l'anéantir. Les jours suivront les jours sans qu'elle cesse de veiller devant le marécage. Et si elle ose faire une attaque, comment 3 hommes lui résisteraient-ils? Ainsi, Nao se trouve pris par la force de ses semblables. Et pourtant, ses semblables sont parmi les plus faibles. Aucun d'entre eux ne saurait étrangler un loup. Jamais leur sagaie légère ne pénétrerait jusqu'au cœur du lion, comme les flèches des Ulam. Leurs épieux demeureraient impuissants devant l'auroch. Mais ils peuvent atteindre le cœur d'un homme. Le fils du léopard est la puissance de sa race. Il la sent plus implacable, plus venimeuse, plus destructive que la puissance des félins, des serpents et des loups. Et, se souvenant de la bonté des mammouths, sa poitrine se soulève. Un soupir caverneux la déchire. Il tourne vers eux cette adoration qui germe au fond de son âme et qui, aussi forte que l'adoration du feu, est plus tendre et plus douée. Quelquefois, le nomade se dresse et lève sa massue. La guerre le remplit tout entier. Ses bras s'impatientent de ne pas frapper ceux qui insultent à sa force. Mais la prudence et la ruse reviennent, sans lesquelles aucun homme ne persisterait une saison. Sa mort serait trop belle pour l'ennemi s'il allait la chercher lui-même. Il faut qu'il fatigue les nains rouges, qu'il les effraie, qu'il en tue beaucoup. D'ailleurs, il ne veut pas mourir. Il veut revoir Gamla. D'abord, les nains rouges n'avaient point paru par crainte d'une embûche parce qu'ils attendaient une imprudence des Ulam. Ils se montrèrent vers le déclin du jour. On les voyait jaillir de leur retraite et s'avancer jusqu'à l'entrée de l'arête granitique avec un singulier mélange de glissement et de saut. Puis, arrêtés, ils considéraient le marécage. L'un ou l'autre poussait un cri, mais les chefs gardaient le silence, attentifs. Au crépuscule, les corps rouges grouillèrent. On eût dit, dans la lueur cendreuse, d'étranges chacals dressés sur leurs pattes de derrière. La nuit vint. Le feu des Ulam étendit sur les eaux une clarté sanglante. Derrière les buissons, les feux des assiégeants cuivraient les ténèbres. Des silhouettes de veilleurs se profilaient et disparaissaient. Malgré des simulacres d'attaque, les agresseurs se tinrent hors de portée. Le jour suivant fut d'une longueur insupportable. Maintenant, les nains rouges circulaient sans cesse, tantôt par petits groupes, tantôt en masse. Leurs mâchoires élargies exprimaient une opiniâtreté invincible. On sentait qu'ils poursuivraient sans relâche la mort des étrangers. C'était un instinct développé en eux depuis des centaines de générations, et sans lequel ils eussent succombé devant les races d'hommes plus fortes mais moins solidaires. Durant la seconde nuit, ils n'esquissèrent aucune attaque. Ils gardaient un silence profond et ne se montraient point. Leur feu même, soit qu'ils ne les eussent pas allumés, soit qu'ils les eussent transportés au loin, demeurait invisible. Vers l'aube, il y eut une rumeur brusque, et l'on eût dit que des buissons s'avançaient ainsi que des êtres. Quand le jour pointa, Nao vit qu'un amas de branchages obstruait l'abord de la chaussée granitique. Les nains rouges poussèrent des clameurs guerrières. Et le nomade comprit qu'ils allaient avancer cet abri. Ainsi pourraient-ils lancer leur sagaie sans se découvrir ou jaillir brusquement en grand nombre pour une attaque décisive. La situation des oulams s'aggravait par elle-même. Leurs provisions épuisées, ils avaient eu recours aux poissons du marécage. Le lieu n'était pas favorable. Ils capturaient difficilement quelque anguille ou quelque brème. Et malgré qu'ils y joignissent des batraciens, leur grand corps et leur jeunesse souffraient de pénurie. Nam et Gao, à peine adultes et faits pour croître encore, s'épuisaient. Le troisième soir, assis devant le feu, Nao fut pris d'une immense inquiétude. Il avait fortifié l'abri, mais il savait que dans peu de jours, si la proie demeurait aussi rare, ses compagnons seraient plus faibles que les nains rouges. Et lui-même ne lancerait-il pas moins bien la sagaie? Sa massue s'abattait-elle aussi meurtrière? L'instinct lui conseillait de fuir à la faveur des ténèbres. Mais il fallait surprendre les nains rouges et forcer le passage. C'était probablement impossible. Ses dents grincèrent. L'abri de branches s'était encore rapproché. Peut-être, la nuit suivante, l'ennemi pourrait-il commencer l'attaque. Soudain, un cri aigu perça l'étendue. Une forme émergea de l'eau, d'abord confuse. Puis Nao reconnut un homme. Il se traînait. Du sang coulait d'une de ses cuisses. Il était d'étrange stature, presque sans épaules, la tête très étroite. Il sembla d'abord que les nains rouges ne l'eussent pas aperçu. Puis une clameur s'éleva. Les sagaies et les pieux sifflèrent. Alors, des impressions tremblèrent dans Nao et le soulevèrent. Il oublia que cet homme devait être un ennemi. Il ne sentit que le déchaînement de sa fureur contre les nains rouges et il courut vers le blessé, comme il aurait couru vers Nam et Gao. Une sagaie le frappa à l'épaule sans l'arrêter. Il poussa son cri de guerre, il se précipita sur le blessé, l'enleva d'un seul geste et battit en retraite. Une pierre lui choqua le crâne. Une seconde sagaie lui écorcha l'omoplate. Déjà, il était hors de portée. Et ce soir-là, les nains rouges n'osèrent pas encore risquer la grande lutte.